Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous, bienvenue à l'édition du jeudi 10 septembre 2015. À la une ce soir.
Dans l'est de la RDC, 7 tués et 6 blessés lors d'attaques de positions de l'armée congolaise en territoire de Béni.
République centrafricaine, les forces onusiennes ont fait l'objet d'une embuscade aujourd'hui à Bangui.
Le Cameroun accepte de débloquer 12 millions pour calmer les militaires grévistes.
Crise migratoire, des milliers de personnes fuyant la guerre dans leur pays, notamment en Syrie, ont afflué aujourd'hui encore aux portes de l'Europe.
La Russie défend sa présence militaire en Syrie tout en tentant de calmer les inquiétudes de Washington.
L'économie et les sports dans moins de 10 minutes, mais d'abord le journal.
Et nous ouvrons sur la République démocratique du Congo. Des positions militaires ont été attaquées à Beni, dans l'est du pays, par des assaillants lourdement armés. La société civile fait état de 7 personnes tuées, dont 2 civils et 6 blessés. Un bilan provisoire à prendre avec des pincettes. Les forces congolaises, elles, confirment l'attaque et affirment que la situation a été maîtrisée après 2 heures d'affrontement. De Goma, la correspondance de Charlie Kazereka.
L'attaque est survenue tôt ce jeudi matin dans la localité de Mavové, en secteur de Benimbaou. C'est à peu près 18 km ouest de Ouitcha, chef-lieu du territoire de Beni. Il s'en est suivi des rides d'affrontement d'au moins 2 heures avant que ces présumés ADF lourdement armés ne raccrochent. Maître Omar Kavota, coordonnateur de CEPADO, une organisation de la société civile basée à Beni, qui a donné l'alerte, parle d'une attaque cruelle.
Le bilan à notre possession fait état d'au moins 7 militaires armés réguliers tués aux côtés de 4 blessés, dont un officier supérieur, 2 civils tués et 2 autres blessés.
Le chef sectaire de Benimbaou, M. Rémi Lumande, joint depuis Beni, s'est réservé de soulever un quelconque bilan côté FARDC, soulignant tout de même 6 tués et 2 capturés côté assaillants. Ajoutant tout de même que la situation a été vite maîtrisée par l'armée régulière et que certaines populations qui se sont déplacées vers Ouitcha et Mavivi, suite à ces affrontements, ont commencé à retourner, soit pour récupérer certains objets essentiels en attendant que les FARDC ratissent bien les milieux. La société civile de Beni appelle le gouvernement congolais et la communauté internationale à plus de soutien en FARDC pour mettre fin à l'activisme de cette rébellion qui a tué plus de 500 personnes selon cette société civile. Charlie Kasereka Goma pour VOA Afrique.
République centrafricaine, les forces de la mission des Nations Unies en Centrafrique ont fait l'objet d'une embuscade aujourd'hui à Bangui. L'attaque s'est produite alors que l'unité de police rwandaise de la MINUSCA effectuait une patrouille dans le quartier Gobongo, dans le 4e arrondissement de la capitale. Les policiers onusiens sont sortis indemnes de l'embuscade qui a toutefois occasionné d'importants dégâts matériels, précise l'ONU. Quelques heures auparavant, des tirs d'armes avaient été entendus dans le 1er arrondissement, à proximité de l'état-major conjoint du secteur de Bangui, et dans le 8e, où stationnent des policiers de la République démocratique du Congo, indique la MINUSCA.
Par ailleurs, toujours à Bangui, plusieurs véhicules de la communauté internationale, y compris de la mission onusienne, ont fait l'objet d'actes d'agression violente qui les ont sérieusement endommagés et mis en danger la vie des fonctionnaires se trouvant à leur bord. La MINUSCA dit avoir lancé des enquêtes pour identifier les auteurs de ces actes criminels afin qu'ils soient arrêtés et répondent de leur forfait devant la justice. Rappelons également que 2 civils ont été tués mercredi soir dans la capitale centrafricaine par des grenades lancées par des inconnus.
Le Cameroun accepte de débloquer 12 millions de dollars pour calmer les militaires grévistes. Il faut dire que 200 militaires réclamant le paiement de leurs primes bloquaient la circulation et manifestaient devant l'Assemblée nationale. Issa Chiroma, ministre de la Communication du Cameroun.
Le ministre délégué à la présidence, chargé de la défense, est allé à la rencontre des militaires concernés par la revendication de ce jour pour leur annoncer la décision prise par le chef de l'État de faire procéder au paiement immédiat et par anticipation sur la régularisation à venir de l'Union africaine des arriérés des primes réclamées à hauteur d'environ 6 milliards de francs CFA. À l'annonce de cette information, les militaires concernés sont immédiatement rentrés dans les rangs et ont exprimé leur profonde gratitude au président de la République, son Excellence M. Paul Biya.
Le ministre de la Communication du Cameroun, Issa Chiroma.
Révision de la Constitution au Rwanda, une commission a été chargée d'élaborer un projet de réforme, un texte qui pourrait permettre au président Paul Kagame de briguer un troisième mandat en 2017. Cette commission est composée de 7 membres, essentiellement des juristes. Il faut dire que le mois dernier, le Parlement a donné son feu vert à une révision du texte suprême, initiative prise suite à une pétition signée par plus de 3 millions de Rwandais demandant le maintien de Paul Kagame au pouvoir. Pétition perçue par beaucoup comme un stratagème du pouvoir en place.
Procès Hissène Habré au Sénégal. L'ancien président du Tchad refuse toujours de s'exprimer devant les chambres africaines extraordinaires basées à Dakar, une juridiction qu'il récuse. Il refuse également tout contact avec ses avocats commis d'office. Aujourd'hui, un ancien membre du gouvernement tchadien a décrit un pouvoir absolu, tribal, sous le régime de Hissène Habré entre 1982 et 1990. Un conseil des ministres, les questions de fond n'étaient pas discutées, on ne contestait rien, a expliqué M. Facho Balam. On a tué dans tous les groupes ethniques, c'est une période terrifiante, a-t-il souligné. Hissène Habré est jugé pour les exactions commises sous son régime.
Et autre poursuite, celle visant Dominique Ongwen, l'un des principaux chefs de la LRA. Des juges de la CPI recommandent que l'audience de confirmation des charges se tienne en Ouganda, où le seigneur de guerre est accusé d'avoir commis des crimes contre l'humanité. L'objectif est de rapprocher les procédures des communautés affectées.
Et les recherches se poursuivent pour retrouver l'avion de Sénégalais disparu samedi dernier. Une équipe du bureau d'enquête accident français va se rendre demain à Dakar. Elle sera chargée de conduire l'enquête de sécurité. L'avion effectua un vol d'évacuation sanitaire entre le Burkina Faso et Dakar lorsqu'il a percuté un Boeing. Il s'est ensuite abîmé en mer.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Des milliers de réfugiés et immigrants ont afflué aux portes de l'Europe encore aujourd'hui. Et un grand nombre d'entre eux tentaient de franchir la frontière entre la Macédoine et la Grèce. Le point avec Nathalie Barge.
Le Parlement européen, lors d'un vote non contraignant, a massivement soutenu l'appel lancé par le chef de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, pour des quotas obligatoires, différents selon les pays, pour accueillir 160 000 réfugiés au cours des 2 prochaines années. La Roumanie a été le dernier pays d'Europe centrale à rejeter ce plan, disant qu'il était hors de question d'accepter autant de demandeurs d'asile. La Slovaquie s'oppose également au plan. L'Autriche et la Hongrie ont signalé qu'un nombre record de migrants ont traversé leurs frontières respectives la nuit dernière. Budapest a annoncé que plus de 3000 personnes sont entrées en Hongrie à partir de la Serbie, tandis que l'Autriche a déclaré qu'un nombre similaire était entré sur son territoire à partir de la Hongrie. La société ferroviaire autrichienne a suspendu les trains en provenance de Hongrie à cause des plateformes bondées. Dans la ville de Nickelsdorf, des milliers de personnes se sont rassemblées pour attendre les trains à destination de Vienne, afin de rejoindre l'Allemagne notamment.
La Russie a défendu aujourd'hui l'envoi de matériel militaire à la Syrie. Le Kremlin a indiqué que les conseillers militaires russes en Syrie ont pour mission l'entretien d'équipements et non la participation dans les combats. Ils sont dans le pays en conformité avec le droit international, a dit un porte-parole. L'armée de Bachar el-Assad est en grande difficulté à la fois face à Al-Qaïda et au groupe État islamique dans le nord-ouest et à l'est du pays. Dans l'est, au moins 54 combattants ont été tués par exemple hier au cours d'intenses combats entre les forces du régime et les djihadistes qui s'approchent de l'aéroport militaire de la ville de Deir ez-Zor, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme.
L'ONU doit autoriser aujourd'hui les Palestiniens à faire flotter leur drapeau au siège de l'institution internationale à New York. Une résolution en ce sens devait être soumise à 19h GMT à l'Assemblée générale de l'ONU et son adoption est une formalité, estiment des diplomates. Comme le souligne l'AFP, cette mesure symbolique représente une nouvelle étape dans l'intense campagne diplomatique que mènent les Palestiniens pour faire reconnaître leur État. La Palestine est devenue un État observateur non membre de l'ONU le 29 novembre 2012.
Le dossier nucléaire iranien, la lutte contre l'islamisme, le conflit israélo-palestinien et la situation à Gaza, tels sont les points qui ont dominé la rencontre du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et de son homologue britannique David Cameron aujourd'hui à Londres. À l'issue de l'entretien, un porte-parole du Premier ministre britannique a indiqué que sur l'Iran, ils ont reconnu que s'ils avaient des différences d'approche, ils partageaient l'objectif d'une plus grande stabilité dans la région. Les deux hommes ont convenu de la nécessité d'avoir des inspections régulières des installations nucléaires iraniennes. Pour venir à bout du conflit israélo-palestinien, ils soutiennent une solution fondée sur deux États. David Cameron a aussi souligné l'importance d'améliorer la vie quotidienne des habitants de Gaza.
En Chine, le Premier ministre Li Keqiang a reconnu ce jeudi que son pays fait face à une série de difficultés économiques, mais il reste confiant en ce qu'il appelle un atterrissage en douce. Lors du Forum économique mondial de Dalian, M. Li a invoqué le ralentissement de l'économie mondiale comme un défi à la croissance de l'économie chinoise.
Politique américaine, un nouveau sondage de l'université Quinnipiac révèle une course très serrée chez les démocrates dans l'Iowa. Selon le sondage, Bernie Sanders, un socialiste, a dépassé Hillary Clinton. Il mène 41 contre 40%. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
Coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs. C'est la Minute Éco avec Camille Grosdidier.
Ouverture à Abidjan, Côte d'Ivoire, de la 6e réunion du Conseil pour l'intégration des marchés de capitaux ouest-africains. Pendant 2 jours, les participants à cette rencontre feront l'état d'avancement des travaux des commissions techniques initiées dans le cadre du projet d'intégration des bourses de la CDAO, c'est-à-dire le Nigeria, Ghana, Sierra Leone et BRVM, précise l'agence de presse africaine l'APA. La Côte d'Ivoire a pris très tôt la mesure de ses enjeux de rapprochement et d'intégration des places financières en contribuant activement pour la création au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UEMOA, en 1996 d'une bourse panafricaine intégrée, la Bourse régionale des valeurs mobilières, a rappelé Alassane Ziyé Diamoutene, directeur de cabinet du ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Il est cité par l'APA. La compagnie aérienne Rwanda Airlines prévoit d'ouvrir plusieurs lignes de vol internationales vers l'Europe et l'Asie, dont la Chine et l'Inde, à partir de l'année prochaine. Toujours concernant le trafic aérien, la compagnie aérienne marocaine Royal Air Maroc vient de signer 2 conventions de partenariat avec le Mali en vue de renforcer leur partenariat dans le transport aérien.
La Minute Éco, merci Camille.
Et pour notre page sport, nous accueillons en studio Timothée Donangmaï. Salut Tim.
Salut Gabi.
Suite de l'Open des États-Unis avec les demi-finales dames ce soir et Serena Williams qui poursuit sa course vers un grand chelem.
Eh oui Gabi, la numéro 1 mondiale affronte l'Italienne Roberta Vinci et en cas de victoire ce soir et en finale samedi, elle deviendra seulement la 4e joueuse de l'histoire et la première depuis l'Allemande Steffi Graf en 1988. À détenir les 4 trophées majeurs du tennis la même année. Elle égalera aussi Gabi, l'Allemande, pour le nombre de titres du Grand Chelem, 22, et n'aura plus que l'Australienne Margaret Court au-dessus d'elle. Margaret qui a remporté 24 titres majeurs. L'autre demi-finale dame mettra aux prises la numéro 2 mondiale Simona Halep et l'Italienne Flavia Panetta.
Toujours à Flushing Meadows, tableau tout aussi alléchant, en demi-finale messieurs prévu vendredi.
A commencer par le derby suisse qui opposera Roger Federer et Stan Wawrinka. Federer connaît une bonne année avec 5 titres, mais il n'a pas remporté de trophée du Grand Chelem. Depuis 2012, il connaît bien son adversaire et compatriote Wawrinka, qu'il a défait à 16 reprises en 19 rencontres. Mais Gabi Wawrinka, qui a décroché cette année le tournoi de Roland-Garros, entend bien prendre sa revanche cette fois-ci. Dans l'autre demi-finale, messieurs, le numéro 1 mondial Novak Djokovic affiche une grande forme cette année. Avec ses titres de l'Open d'Australie et de Wimbledon, il croise Marin Cilic, le tenant du titre de l'Open des États-Unis, qu'il a battu lors de leurs 13 précédentes rencontres.
Quand la police s'en prend à James Blake par erreur.
Et oui, James Blake qui exige maintenant des excuses officielles de la police new-yorkaise. Il attendait de se rendre à l'Open des États-Unis lorsqu'un policier en civil a foncé sur lui et l'a plaqué au sol, l'a menotté, le confondant à un malfaiteur. Après vérification de ses papiers d'identité, l'ancien joueur a été remis en liberté.
Merci, Timothée Donangmaye.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Guiriec et Chérubin Dorsil en votre compagnie. Place au dossier du jour. Notre première escale, Morgane, ce soir, c'est la Côte d'Ivoire.
Des manifestations sporadiques des jeunes de l'opposition ont été dispersées ce jeudi, au lendemain du choix de 10 personnalités pour participer à l'élection présidentielle prévue le 25 octobre prochain. Des marches ont été donc signalées dans les quartiers de Markori et de Yopougon à Abidjan, mais aussi dans les villes de Bonoua et Gagnoa. Pour en savoir davantage sur les motivations des manifestants, Jean-Roger Billon a joint Guillaume Kamekame, un des coordonnateurs des marches au nom de la jeunesse de la Coalition nationale pour le changement.
Nous ne sommes pas d'accord parce que le Conseil constitutionnel dirigé par Koné Mamadou violé et violenté notre Constitution, qui est la boussole d'un pays. Quand on parle de candidature dérivée de Daniel Ouattara, ça nous étonne. Ça prouve que M. Ouattara n'est pas vraiment éligible. Tout ce que nous souhaitons, que notre Constitution soit respectée. Nous serons dans la rue jusqu'à ce que notre Constitution soit respectée.
Alors, M. Kamé, il y a une jurisprudence notoire. M. Ouattara a été président de la Côte d'Ivoire. Cela paraît absurde de dire qu'il ne peut pas être candidat.
La jurisprudence n'est pas au-dessus de notre Constitution, s'il vous plaît, monsieur. La petite transfert de notre Constitution dit pour être candidat, il faut être de père et de mère ivoirien. Ne s'est jamais prévalu d'une autre nationalité. Et il y a plusieurs lignes dedans. C'est ce que dit notre Constitution. Et l'arrêt de Pierre Koné, de l'ancien président de la Cour suprême, Pierre Koné en 2000, qui a rejeté la candidature de Daniel Ouattara, est encore là. Et cet arrêté-là est implacable.
Il y a des partis politiques qui ont décidé d'aller à la compétition du 25 octobre, notamment le FPI dirigé par Fingesan, et des candidats comme l'ancien Premier ministre Bani et Essi Amara. Ils font partie de la CNC que vous représentez.
La CNC, c'est une coalition et le FPI est membre de cette coalition. On ne peut pas empêcher quelqu'un qui est membre de la coalition d'aller à une élection. Mais nous, au FPI, nous disons qu'on ne peut pas procéder à cette élection et on ne peut pas aller à cette élection où Youssou Bakayoko, qui a fait qu'en Côte d'Ivoire, il y a eu des morts en 2010, est encore président, et où Koné Mamadou, qui est un rebelle, qui est le numéro 2 de ceux qui ont fait la guerre en Côte d'Ivoire en 2002, est président de la Cour suprême, et où plusieurs proches de Ouattara sont membres du Conseil constitutionnel et ils sont dans la CEI. Ça veut dire que Ouattara est pris, il est joueur et il est entraîneur. Il est arbitre et même il est gardien adverse. On ne peut pas aller à une leçon de cette condition.
Guillaume Kamekame, l'un des coordonnateurs des marches au nom de la jeunesse de la Coalition nationale pour le changement.
La Voix de l'Amérique en FM à Abidjan, 24 heures sur 24. Branchez-vous sur 99, votre fréquence VOA à Abidjan.
En Guinée, la campagne électorale pour la présidentielle du 11 octobre a bien commencé malgré quelques imperfections du processus. Cependant, il y a des lignes rouges à ne pas franchir. Il s'agit d'éviter de tirer sur la fibre ethno-régionaliste, estime Fredine Kourikiye, chef de mission de Humanitarian Dialogue Center, basé à Genève.
Première chose dont il faut se réjouir, c'est que le processus électoral est commencé. Parce que vous savez que même pour arriver au stade où on est aujourd'hui, il y a dû y avoir beaucoup de consultations, beaucoup de discussions. Et à un moment, on avait même des craintes que ça ne puisse pas avoir lieu. Le processus n'est pas parfait parce qu'il y a toujours des discussions ou même des récriminations sur la qualité du fichier électoral. Vous savez que c'est un élément important dans le processus électoral. Et il y a aussi cette discussion qui avait quand même été l'objet d'un accord sur la succession des différents scrutins, notamment en privilégiant les présidentielles et les législatives avant les locales, ce qui a fait l'objet d'un accord politique. Le fait que nous avons 8 candidats, 8 grosses pointures de la scène politique guinéenne en course pour l'élection du 11 octobre, on peut se dire qu'il y a déjà quelque chose qui est en marche. Mais il faut garder la vigilance la plus élevée pour que le déroulement de la campagne soit aussi la traduction de cette volonté.
Quels sont les risques d'échec?
Le premier risque d'échec, c'est qu'on ait des interférences ethno-régionales, comme ce fut le cas il y a 5 ans, Deuxièmement, c'est que les mouvements divers et variés, vous vous rappelez des tentatives de retour du capitaine Dadis Kamara. On espère que ces interférences puissent ne pas impacter négativement le processus. Et troisièmement, c'est toujours de veiller que toutes les étapes, chacune des étapes de ce processus soit la plus transparente possible pour qu'on n'ait pas de contentieux lourds, de réclamations qui peuvent virer en violence.
Justement, quels sont les mécanismes à mettre en place pour anticiper protestation éventuelle des résultats des élections?
Il y a des règles de jeu qui sont là. Il faut que la Commission électorale nationale indépendante se mette réellement au-dessus de la mêlée. Il faut privilégier l'équité. Je pense que c'est ce que nous observons dans la majeure partie des scrutins dans nos pays d'Afrique. C'est l'usage de moyens disproportionnés par certains candidats. Donc le respect rigoureux des règles de jeu, la transparence de chaque étape du processus et enfin, c'est ce code de bonne conduite qui doit guider chacun des acteurs, chacun des compétiteurs, chacun des candidats.
Fredine Kourékié, expert dans le dialogue politique et la médiation en Afrique, joint à Bangui par Eric Manirakiza.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM.
La Russie dément tout renforcement de sa présence militaire en Syrie. Les États-Unis ont affirmé qu'une dizaine de véhicules blindés, des dizaines de soldats russes, deux avions cargo et un avion de transport de passagers sont arrivés à l'attaquer, fief alaouite du président Bachar al-Assad. Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, a balayé ces accusations d'un revers de main. Idriss Fall, adjoint à Paris, Madame Mansouria Morefi, responsable Moyen-Orient à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales.
J'entends bien que la Russie a démenti, mais tous les observateurs ont la preuve que celle-ci a bien augmenté le nombre de ses spécialistes, conseillers, militaires, troupes en Syrie. La Russie n'a jamais caché qu'elle soutenait ce qu'appelle le régime, parce que bien sûr, ils ont souvent fait la distinction entre on ne soutient pas Bachar al-Assad, mais on soutient une entité, on tient un pouvoir des institutions. Contre l'extrémisme, le fanatisme environnant, contre le chaos et pour aussi maintenir sa position par rapport au seul allié qu'elle a dans la région.
Et l'Occident, par exemple les États-Unis, face au groupe État islamique?
Face au groupe État islamique, les États-Unis sont entrés en guerre il y a un an maintenant. Et la campagne donc aérienne de ces bombardements n'ont rien changé sur le terrain. Et donc se pose le problème pour les Occidentaux en général et les États-Unis en particulier de la remise en question de cette stratégie. Donc que faire pour l'instant? On ne sait pas trop. Vous savez bien que le président américain qui s'est engouffré dans cette affaire plutôt à reculons, puisqu'il avait toujours déclaré qu'il n'y aurait plus d'intervention, plus de guerre sous sa présidence. Mais il continue à dire qu'il n'y aura jamais de troupes au sol.
Est-ce qu'il y a un lien entre le groupe État islamique et l'Arabie saoudite?
Il n'y a pas de lien entre l'Arabie saoudite et l'État islamique aujourd'hui. Il y a un lien, je dirais, originel dans la mesure où l'Arabie saoudite a fomenté la propagation du wahhabisme dans toute la région. Depuis l'arrivée de la République islamique d'Iran, elle a instrumentalisé l'islam radical comme contre-pouvoir, comme force de résistance, reflet de sa volonté hégémonique, et elle a un petit peu contribué à la création de l'État islamique dont elle est aujourd'hui une cible.
Aujourd'hui, l'Europe pris d'assaut par des centaines de milliers de migrants, est-ce un aveu d'échec?
C'est l'échec plus généralement de la politique occidentale au Moyen-Orient, face au monde musulman depuis des décennies, pas simplement de la Syrie.
Mansouria Morefi, responsable Moyen-Orient à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Gros plan sur la reprise mouvementée du procès d'Hissène Habré au Sénégal. L'ex-président tchadien est jugé pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre et de torture. Quels en sont les enjeux? Le procès d'Habré, le premier d'un ex-dirigeant africain dans un autre pays du continent, servira-t-il d'exemple? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
Une ancienne espèce humaine a été mise à jour à Maropeng, près de Johannesburg, en Afrique du Sud. Trouvée en 2013 sur un site classé par l'UNESCO, berceau de l'humanité, les ossements de 15 hominidés ont été exhumés en 2013. Aujourd'hui, ces lointains cousins ont un nom, Homo naledi, étoile, en Sesotho. Anastasie Tudiesch a demandé à Alain Froment, anthropologue et directeur de recherche au Musée de l'Homme à Paris, à quoi ressemblaient ces nouveaux ancêtres.
C'est un petit hominidé, hein. Il fait un peu moins d'1m50, peut-être 45 kilos. Il a un cerveau tout petit, à peine plus gros que celui d'un chimpanzé, mais il se déplace très bien. Il a un pied très moderne et des mains qui sont capables d'une grande agilité, donc de tailler des outils. Il est donc certainement sur le rameau qui conduit aux hommes actuels, mais on n'a pas trouvé d'outils dans la grotte où il a été découvert, donc pour le moment on ne peut raisonner que sur son anatomie.
Quel âge a-t-il, cet Homo naledi ?
Grande question, les auteurs n'ont pas été capables de donner l'âge parce que en fait c'est une découverte presque de surface et c'est ça qui est d'ailleurs extraordinaire. C'est au fond d'une grotte qui est très peu accessible. Et tout se passe comme si la quinzaine d'individus qui ont été retrouvés avaient été déposés là volontairement. Donc même si l'âge est estimé à au moins 2 millions d'années ou peut-être 3, sans qu'il y ait d'argument géologique pour le moment, en tout cas pour des hominidés aussi archaïques, c'est très étonnant et très nouveau. C'est la première fois pour une époque aussi ancienne où on voit un souci de mettre le mort quelque part.
Est-ce que vous pouvez nous situer cet Homo naledi par rapport à Lucie, la mère de l'humanité ?
Lucie n'est justement pas la mère de l'humanité, elle est sur une branche un petit peu collatérale. Mais ce qui a été frappant avec Lucie, c'est que pour la première fois, on avait un squelette presque complet d'Australopithèque. Et là, on n'en a plus qu'un. En fait, évidemment, les 15 individus ne sont pas tous complets, mais on a toutes les parties du squelette très détaillées, par exemple des mains et des pieds complets, des hommes, des femmes, des enfants.
Que peut nous apporter cette découverte, Alain Froment ?
Alors évidemment, ça confirme le rôle prépondérant de cette zone d'Afrique pour fournir des fossiles. Hein, c'est cette zone qu'on appelle berceau de l'humanité depuis le premier Australopithèque qui a été découvert dans les années 1920. Et donc là, ce qui est marquant, c'est surtout la quantité des individus. Hein, pour des périodes aussi anciennes, c'est inégalé. La seule référence, c'est des Néandertaliens d'Europe centrale, mais alors là, c'est beaucoup plus récent, le site de Crapina, qui a peut-être une centaine de milliers d'années à peine. Et puis, en Espagne, le site d'Atapuerca, où on a, vers 400 000 ans, une accumulation de plusieurs dizaines d'individus. Mais vous voyez que c'est beaucoup plus récent que la période qui nous concerne là, qui est certainement antérieure à 2 millions d'années.
On écoutait Alain Froment, anthropologue et directeur de recherche au Musée de l'Homme à Paris.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque jeudi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, African Music. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA. Ne ratez pas votre émission interactive. Participez en direct. RM Show vous dit Peace Africa.
Et c'est la fin de cette édition. Michel Joseph a assuré la mise en onde avec l'assistance de Brian Marcoulier à la console. Au micro, Morgane Guiriec et Chérubin Dorsil.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et sur notre site internet voaafrique.com.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. Sur 99 FM Abidjan, à Brazzaville sur 101.9 FM, à Lomé 99.5 FM, 92.9 FM, Bahia, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.